Je ne veux pas sortir du lit, c'est trop tôt. Personne n'a racheté du café. J'ai raté la date limite d'inscription à mon cours. J'ai loupé le dernier bus. Quelqu'un me passe devant dans la file d'attente à la poste. Mon stylo ne marche plus. Et si je me roulais par terre? Je veux dire, et si je faisais comme les enfants? Je boude, puis je hurle, je pleure, je m'assieds n'importe où, je tape de mes petits poings par terre et je me roule sur le sol, jusqu'à obtenir ce que je veux, là.
C'est quand même dommage qu'on ne peut pas faire des crises quand on est adulte, parce que parfois on en a quand même envie. Les enfants peuvent faire des crises parce que, un, ils sont en plein développement et ils sont très choux, donc les parents et les adultes leur permettent de faire plus de crises.
Mais moi aussi, je peux être très choux. Alors pourquoi je ne peux pas piquer une crise? Microscience, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences et dans un monde un peu barbant, ou pas, de la régulation émotionnelle. C'est Olga Klimetsky qui va nous prendre par la main et nous faire un gros câlin pour tenter de désamorcer les choses. Et puis aussi pour nous en apprendre plus sur la manière dont notre cerveau gère les émotions. Car elle est Privat Dosanth, docteur en psychologie, affiliée au Centre interfacultaire des sciences affectives à l'Université de Genève et à l'Université de Jena en Allemagne. Et en fait, c'est utile de gérer ses émotions, surtout pour bien vieillir. Mais ça, c'est pour plus tard. Je disais donc, moi aussi, je peux être très chou. Alors pourquoi les enfants se roulent par terre et pas moi?
Les enfants sont encore en train de développer leur compétence à réguler leurs propres émotions. Et ça vient avec un développement du cortex préfrontal. Donc c'est une zone qui est située juste derrière notre front. Et qui fait qu'on peut réguler nos émotions, nos pensées, nos actions. Et c'est une zone qui se développe pendant notre enfance, mais encore jusqu'à l'âge de plus ou moins 25 ans. Donc c'est un développement très très long où on apprend à utiliser ces activités cérébrales pour nous réguler.
Zut, j'ai passé la date limite des 25 ans. Mais que se passe-t-il dans le cortex quand on tape du poing, on hurle?
Donc si on fait une crise ou si on est stressé, même les adultes, si nous sommes stressés, le cortex préfrontal, il ne marche pas si bien que d'habitude. Et ce cortex préfrontal est important pour réguler d'autres zones cérébrales qui guident nos actions, nos pensées, nos émotions. Et donc cette régulation, c'est comme un frein, ça ne marche plus.
Sauf que moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi il faudrait freiner à un moment où mon front me dit qu'il faut tout lâcher. Bon alors, ces émotions, c'est quoi au juste?
Donc une émotion, c'est une réaction à un événement spécifique. Donc ce n'est pas une humeur que j'ai pendant plusieurs jours ou une dépression, une anxiété en général. Et une émotion vient avec un sentiment ou un ressenti. Donc je me sens triste, je me sens heureuse, je me sens anxieuse, j'ai peur, je suis en colère, etc. Et ça vient aussi avec des expressions faciales. Donc, j'ai un grand sourire ou j'ai des yeux grands ouverts parce que j'ai peur. Et ça vient aussi avec des gestes, des comportements, des postures. Et c'est très important, ça vient aussi, une émotion vient avec certaines motivations à agir. Donc, il y a des émotions comme la joie où on veut s'approcher de quelque chose, on veut plus de quelque chose, on veut plus de glace, par exemple. Et si on n'a pas droit à plus de glace, c'est la frustration, la colère, etc. Et on va se retirer de son parent ou on va taper les pieds sur le sol, etc. Et ça, c'est important parce qu'avec ce lien, on peut utiliser les émotions pour ensuite guider nos actions.
Les émotions, les miennes, les vôtres, nous permettent donc d'agir selon les situations. Et comme je suis à peu près adulte, je réalise que ce n'est pas en me roulant par terre que j'avancerai plus vite dans la file d'attente. Mais à quel âge ai-je pu apprendre à me comporter de manière aussi sage?
On apprend à gérer ses émotions pendant toute notre vie. Donc même les adultes apprennent à gérer les émotions. Et je pense que les adultes plus âgés sont peut-être les personnes qui savent mieux gérer leurs émotions. On sait qu'ils ont un certain biais de positivité, les adultes plus âgés, donc autour de 60 ans ou plus, 65 ans, ils ont plus des émotions positives par rapport aux émotions négatives que les jeunes. Donc ils ont appris à sélectionner un peu, à choisir les émotions positives, même s'ils sont confrontés avec le même stimuli.
Ça me rassure, j'ai encore de la marge pour gérer mes émotions. Ces lunettes roses, ce filtre, ce biais de positivité chez les personnes plus âgées, moi, ça m'intrigue. Et on y reviendra. Bon, alors, on apprend tous plus ou moins à bien réguler ses émotions, et si tout va bien, ça va de mieux en mieux avec l'âge. Et tout ceci se passe dans le cerveau. Et si on devait résumer, il ressemble à quoi le circuit de nos émotions dans notre cerveau ?
Donc, quand une émotion arrive, d'habitude, il y a d'abord une activation dans l'amygdale. Donc, l'amygdale, c'est un noyau qui est très profondément dans le cerveau. Ce noyau, il traite les informations qui viennent. Par exemple, si on voit quelque chose, l'amygdale nous dit ou dit au reste du cerveau, ça, c'est quelque chose d'important ou pas. Et c'est vrai pour des stimuli positifs et négatifs. Donc, si je me balade dans la forêt et je rencontre un serpent, mon amygdale va dire au reste du cerveau, voilà, recule-toi, fais gaffe, etc. Donc là, elle va signaliser très forte. Mais aussi quand peut-être une mère voit son bébé, l'amygdale va signaliser très fortement, voilà, c'est un stimulus important qui te fait sourire, qui te rend heureux, etc.
Et cette amygdale, elle n'est pas dans la gorge, elle est nichée au cœur de mon cerveau. C'est elle qui dit que c'est important. Et mon cerveau réagit à ce qui se passe. Cela vous est déjà arrivé, sans doute. Quand on a peur, on sent clairement sa respiration s'activer. Et moi, j'ai des picotements dans les membres dans les moments de bien-être. Donc, les émotions ont un effet sur le cerveau, mais aussi sur le corps.
Lorsqu'on ressent une émotion, c'est souvent quelque chose de vécu. Donc, on ressent ce qui se passe dans notre corps. Et il y a une activation dans l'insula, aussi dans le cerveau, au-dessus de nos oreilles, plus ou moins. Et l'insula, c'est un cortex somatosensoriel. C'est une zone du cerveau qui est responsable pour nous signaliser est-ce que nous avons froid, chaud, est-ce que nous nous sentons bien ou mal, est-ce que voilà, nous sommes tendus ou pas. Donc c'est comme une zone interoceptive.
Tout s'explique. L'émotion naît en moi suite à un stimulus extérieur ou même intérieur, bon ou mauvais. Mon amygdale évalue l'importance de cette émotion et l'insula interprète le message lié à cette émotion. Le reste de mon cerveau décide de ce qu'il convient d'en faire et arrive, le plus souvent, à la conclusion que se rouler par terre n'est pas vraiment une bonne option. Tout ceci, ça se passe entre moi et moi-même. Mais les émotions des autres, elles m'affectent aussi.
C'est super contagieux. Si je commence à sourire maintenant, je vois que votre sourire devient un peu plus grand. Ou si je commencerai à pleurer, probablement vous aurez aussi tendance à être triste. Les émotions sont super contagieuses. Peut-être vous le notez quand on se balade dans la rue et on croise d'autres personnes et on peut facilement attraper un sourire et commencer à sourire nous-mêmes ou attraper une émotion comme ça.
C'est contagieux quand même jusqu'à un certain point. Les parents, en tout cas certains d'entre eux, restent parfois zen face à une crise d'enfant.
On ressent qu'il y a peut-être une frustration qui monte chez nous aussi, les parents, si notre enfant fait une crise. Et on arrive à réguler ses émotions. Donc on arrive à activer ensuite notre cortex préfrontal qui va freiner un peu cette expression de frustration qu'on ne la vit pas à 100%.
Et c'est ça le secret, peut-être. Il ne faut pas réprimer une émotion. Vous avez peut-être noté la subtilité. Notre spécialiste parle de réguler ses émotions, pas de les réprimer.
Chaque émotion vient avec beaucoup d'informations sur l'environnement et notamment sur les actions qu'on peut prendre. Donc, si je sens une frustration, voilà, ça veut dire que quelque chose ne va pas, que je veux changer mon environnement. Quand j'ai peur, c'est peut-être bien de reculer pour pas me faire agresser par un serpent. Donc, c'est des informations super importantes Par contre, il faut réguler un peu à quel point on vit ouvertement les émotions en termes de nos comportements. Mais c'est bien de reconnaître, ah oui, là, j'ai cette émotion-là. Et ensuite, on peut aussi décider à quel point on veut exprimer cette émotion par nos comportements ou par nos gestes.
Mais ne faudrait-il pas plus brider les émotions négatives? Parce qu'elles sont quand même désagréables.
C'est bien d'avoir différentes émotions et d'avoir des émotions changeantes. Donc on sait par exemple des études qui ont mesuré plusieurs fois par jour comment les gens se ressentent, que les gens qui ne changent pas souvent l'état émotionnel, ils sont plus déprimés. Donc c'est bien de réagir chaque fois à une situation avec une émotion appropriée. Donc si une amie me raconte une blague, bah, voilà, je peux rire, je peux être joyeuse. Si elle me raconte quelque chose de triste, je peux être triste. Rester dans les émotions négatives, l'anxiété, la dépression, la rumination, ça, on sait que ce n'est pas bien pour notre santé et que c'est un facteur de risque pour développer des maladies comme par exemple la démence ou de l'Alzheimer.
Vous avez bien entendu, mal réguler ses émotions conduit à un vieillissement précoce. J'ai du mal à voir le rapport.
L'anxiété ou la dépression, c'est un facteur de risque en plus qui accélère de maladies neurodégénératives. Avec l'anxiété, c'est des études corrélationnelles. Donc, on sait que les personnes qui ont plus d'anxiété ensuite développent plus le déclin cognitif, le déclin du cerveau. Donc, on s'est intéressé, est-ce qu'on arrive à baisser l'anxiété avec un entraînement de méditation ou un entraînement à la santé?
Olga Klimetsky fait partie d'un groupe de scientifiques européens qui se sont intéressés au déclin cognitif subjectif chez les personnes âgées.
Ce sont des personnes qui ont ces sentiments que, voilà, cognitivement, c'est plus la même chose. Et quand on fait des tests avec eux, des tests neuropsychologiques, on ne voit pas de différence dans leur performance par rapport à d'autres personnes du même âge. Mais on sait que ce déclin subjectif des fonctionnements cognitifs, ça prédit aussi qu'ensuite, il y a plus souvent des déclins qu'on peut mesurer avec nos tests et souvent aussi de l'Alzheimer ou de la démence.
Là, on prend toutes et tous une grande respiration. Ça arrive à tout le monde d'être un peu moins performant intellectuellement un jour ou l'autre. Mais il est vrai qu'à partir de la soixantaine, les pertes de mémoire ou de capacité cognitive peuvent inquiéter, voire angoisser. Et ce stress, ben c'est pas bon pour le cerveau. Et c'est le cercle vicieux. Bref, en cas de doute sur ses capacités intellectuelles, il vaut mieux consulter. Cela dit, dans une des études Medit Aging, c'est le nom du projet, les scientifiques ont voulu savoir si un entraînement à la méditation pleine conscience ou un programme d'autogestion de la santé sur 2 mois pouvait améliorer ce sentiment. Et si je vous en parle? Ben, évidemment, les résultats sont intéressants.
Ce qu'on a vu, c'est que les 2 entraînements baissent l'anxiété et que ces 2 entraînements augmentent les capacités cognitives et que ça persiste dans le temps, donc ça persiste aussi 4 mois après la fin de l'entraînement.
Intéressant, en effet. Et donc, on continue à creuser de ce côté-là. Mais si je comprends bien, ce n'est pas tant l'émotion négative qui est un problème, mais le fait qu'elle persiste dans le temps, qu'on la rumine en quelque sorte.
Ça fait partie d'une autre étude de notre projet Meditaging. Ça se passe en Normandie, où il y a beaucoup de personnes âgées. Et là, on a testé un entraînement de 18 mois, donc c'était beaucoup plus long. Et au début et à la fin de cet entraînement, on a testé les participants avec des scènes, des films qui rend tristes. Donc, femme qui pleure après un tremblement de terre, ou on voit une fille qui a des difficultés à marcher parce qu'elle est blessée, ou on voit des gens qui font des activités quotidiennes comme marcher, parler, etc. On avait 127 participants. Pendant que les participants ont visionné les films, on a mesuré leur activité cérébrale. Après les films, les participants ont eu 90 secondes à rien faire. Et donc, c'est ce que nous a intéressé dans cette tâche, c'est pas seulement comment les participants réagissent aux films, mais aussi à quel point des activités cérébrales qui sont liées aux émotions vont persister dans le temps et à quel point la connectivité cérébrale dans cette période de repos où il n'y a rien qui se passe va être liée à l'anxiété, à la rumination, aux pensées négatives. Donc à quel point on arrive à mesurer un peu dans le cerveau qu'est-ce qui se passe quand on a des émotions négatives, quand il n'y a pas de stimuli très forts, mais les stimuli sont déjà passés.
On mesure l'écho des émotions négatives dans le cerveau.
C'est comme si un événement négatif continue à réverbérer dans ma tête, voilà, attirer encore mon attention, et je ne passe pas à une autre émotion. Je reste avec cette émotion négative.
Et c'est l'écho, la rumination, qui conduira à la dépression et à la perte de fonction cognitive.
Ça dépend, parce que pas chaque fois que j'ai une émotion négative qui persiste, ça va mener à une dépression. Mais des états dépressifs sont associés avec une durée des émotions négatives beaucoup plus longue que d'habitude. Oui, voilà. Et on sait que voilà, la dépression est associée aussi avec des déclins cognitifs.
Nous apprenons à réguler nos émotions avec l'âge. Par ailleurs, en vieillissant, on acquiert un biais de positivité plus élevé. Mais ce qui m'échappe, c'est que les personnes âgées, bougonnes et grincheuses, elles existent bel et bien.
Pas tout le monde a ce biais de positivité. Donc il y a, même si on voit à la moyenne que les personnes âgées ont ce biais de positivité, c'est pas que chaque personne âgée a ce biais de positivité. Il y a une grande variabilité. Et là, on peut, si on a peut-être un biais de positivité un peu plus bas ou si on n'a pas de biais de positivité, on peut s'entraîner volontairement à augmenter ses émotions positives.
Mais c'est quand même difficile de savoir, en milieu de vie, où on en est dans son biais de positivité.
Il y a certains signes, par exemple, quand vous faites rien ou pas des activités très, qui demandent beaucoup de concentration, est-ce qu'il y a des pensées plutôt positives ou négatives qui vous viennent à l'esprit? Donc quand vous lavez la vaisselle ou quand vous aspirez votre maison, est-ce que dans ces moments-là, vous avez des pensées négatives ou vous pensez « Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait du mal dans le passé ?» ou « Qu'est-ce que peut m'arriver dans le futur ?» ou est-ce que vous avez des pensées qui sont plutôt neutres ou positives? Donc ça peut être un des indicateurs qu'est-ce qui se passe dans ces périodes de repos où on n'a pas une tâche qui prend toute notre attention. Et si on remarque chez soi qu'on a plutôt ce biais de négativité dans ce temps plutôt libre, là, on peut se demander si on ne veut pas le remplacer par un biais de positivité, ce qui est beaucoup plus rigolo.
D'accord, ce sera fait. Cultiver son biais de positivité et réguler sa frustration, c'est peut-être ça la clé. Je n'y arriverai sans doute pas toujours, mais après tout, c'est quand même plus agréable de regarder le verre à moitié plein. Mais quand même, au fond de moi, je me demande si toute cette histoire de devoir réguler mes émotions, ce n'est pas surtout une façade sociale. Parce qu'il faut se comporter d'une certaine manière avec les autres.
Je pense que les enfants et tout le monde, on apprend par le feedback social qu'on reçoit dans la vie. Et oui, bien sûr, c'est important de s'adapter au milieu social. Quand je suis dans une réunion et la réunion ne me va pas, peut-être je suis en colère avec quelqu'un, mais je sais, c'est une réunion professionnelle. Je ne vais pas commencer à crier. Je me calme, je prends 2-3 respirations profondes et après je pose une question d'une manière plutôt neutre ou plutôt amicable pour ne pas casser la relation avec la personne, même si je suis en colère. Donc c'est très important pour maintenir ces liens sociaux, à réguler nos émotions et à ne pas exprimer tout ce qui nous arrive en termes d'émotions.
Pourquoi je stresse? Est-ce que je vis avec un homme de Néandertal? Que fait cette fourmi dans ma cuisine? Comment ma peau se répare? Quelle est cette toxine qui a contaminé mon repas? Quelle est cette voix dans ma tête? Qui m'enverra la prochaine question de microscience?
Vous avez envie de nous raconter vos verres vides ou pleins? Votre dernière crise? Ou soumettre une question à microscience? Rendez-vous par mail sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur Play RTS, Spotify ou Apple Podcasts. L'équipe de Microsciences ne connaît pas la crise et elle est composée de Camille Dupont-Lait, coproductrice qui cultive son biais de bienveillance, Jérôme Nussbaum, jardinier d'habillage musical, David Golan, réalisateur et expert en épanouissement du son, Andrea Glanville, attachée de production, bichonneuse d'articles. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique qui réprime rarement sa curiosité.